Radio Libertaire 89.4, vous êtes avec les amis d'Orwell et aujourd'hui on a pour invité Jean-Claude Vitran, qui est responsable du groupe Liberté et Technologie de l'Information à la Ligue des Droits de l'Homme.
Bien sûr, Radio Libertaire, vous écoutiez Nirvana, Serve the Servants.
Et vous êtes avec les amis d'Orwell. Donc aujourd'hui, on reçoit Jean-Claude Vitran, donc qui est responsable du groupe Liberté et Technologie de l'Information à la Ligue des Droits de l'Homme. Donc bonjour Jean-Claude.
Bonjour à tous.
Donc c'est un sujet qui intéresse la Ligue des Droits de l'Homme depuis longtemps, en fait, la question des libertés et technologies de l'information.
Depuis quelques années, oui. Enfin, depuis qu'on connaît les développements de l'ère numérique. Et puis, depuis la loi du 6 janvier 1978 sur informatique et liberté. Et puis la CNIL, mais je pense qu'on y reviendra tout à l'heure. La fondation de la CNIL.
D'accord. Et vous êtes depuis le début, alors, dans ce groupe
Non, moi, je suis arrivé quand j'ai pris ma retraite il y a quelques années. Avant, j'étais déjà ligueur dans l'âme, mais j'ai pris ma retraite il y a 5 ans. Et là, je suis rentré de plein pied dans le bénévolat militant à la Ligue des Droits de l'Homme. Pardon. Et puis, ça m'a pris parce que je travaillais avant dans la communication et la publicité. Et j'étais très intéressé par toutes ces technologies. Je faisais des sites Internet. Mon entreprise faisait des sites Internet. Et j'étais très intéressé par toutes ces technologies. Et c'est pour ça que je me suis investi dans ce groupe de travail qui s'appelle effectivement Liberté, Technologie de l'Information et de la Communication.
Donc ça peut être intéressant de rappeler ce que c'est que la Ligue des Droits de l'Homme et en quoi ce sujet la concerne.
Eh bien la Ligue des Droits de l'Homme, c'est une vieille dame, très vieille dame. Elle a 111 ans cette année, va avoir 112 ans, on est en 2010 donc elle en a bientôt 112. Elle est née en avril 1898. Elle est née de l'affaire Dreyfus et principalement du fait que Émile Zola a écrit son fameux billet dans le journal L'Aurore, J'accuse. Et il a été mis, on dirait aujourd'hui en examen, pour diffamation, et d'ailleurs condamné par le tribunal à l'exil en Angleterre. Et là, un certain nombre de personnes, on va dire, ils n'étaient pas encore ligueurs au moment où ils se sont réunis, ils étaient cinq, ont décidé, ils étaient véritablement catastrophés, même plus que ça, ils trouvaient que c'était intolérable ce qui se passait. Ils étaient sûrs aussi, eux, ils étaient très en avance, ils étaient sûrs de la non-culpabilité du capitaine Dreyfus. Et pour aider Zola et que Zola revienne et ne soit pas condamné, enfin tout au moins soit amnistié, ils ont créé la Ligue des droits de l'homme et du citoyen. Le vrai terme exact aujourd'hui, c'est toujours Ligue des droits de l'homme et du citoyen. C'était en avril 1898. Ils ont bien entendu réussi, puisque Zola a été ensuite, on va dire, non pas amnistié, mais gracié. Ensuite, ils se sont occupés de faire réhabiliter le capitaine Dreyfus, qui a été donc réhabilité en 1905. Et puis, le temps a passé et ils ont décidé de continuer à œuvrer pour les libertés et pour les droits fondamentaux en France. La loi de séparation de l'Église et de l'État, ils ont une responsabilité à l'intérieur de la signature de cette loi. Ensuite, la guerre de 14 est arrivée. Ils ont beaucoup travaillé sur la réhabilitation des fusillés, pour l'exemple. Et on a un de nos grands ligueurs, Gilles Manseron, qui est historien, qui travaille toujours sur ce sujet-là, parce que c'est pas quelque chose qui est terminé complètement. Il y a encore des gens qui ont leur mémoire entachée par tous ces problèmes. Et puis en 1922, et ça c'est important, on a créé avec nos prédécesseurs, nos ancêtres, moi j'y suis pour rien, et ont créé la Fédération internationale des droits de l'homme avec la Ligue allemande qui avait été créée après la guerre et la Ligue belge. Une date aussi historique, c'est la signature en 1936 des accords du Front populaire à notre siège social de l'époque qui était rue Jean Dolan. Le Front populaire, les accords du Front populaire ont été signés avec la Ligue des droits de l'homme en 1936. Cette période était une période trouble. Alors là, on a eu des difficultés internes à la Ligue, il faut le dire, parce qu'il y avait des pacifistes, des non-pacifistes, des non-violents, des gens qui savaient très bien que la guerre allait arriver, comme la majorité des Français, je crois. Et malheureusement, on a laissé, à l'époque, on était environ 170 à 200 000 ligueurs, et on en a laissé quasiment la moitié sur les champs de bataille, ou comme résistants, ou comme déportés, ou comme combattants sur le front. Donc pratiquement la moitié. Alors là, il y a une anecdote. En 1940, au moment où les Allemands sont arrivés, ils ont fait deux choses immédiates. Ils ont confisqué les archives de la Ligue des droits de l'homme et des francs-maçons. Et puis on les a retrouvés à Moscou en l'an 2000. Et on est en train, des archivistes sont en train de reclassifier tout ça de façon à ce qu'on puisse avoir une vraie mémoire de la Ligue des droits de l'homme. À la sortie de la guerre 1948, un grand illustre de nos prédécesseurs, prix Nobel de la paix, René Cassin, qui est un des membres éminents avec Aliénor comme Roosevelt, a été un des rédacteurs principaux de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948. Alors les combats de la suite, c'est contre la torture en Algérie, contre la guerre d'Algérie aussi, bien sûr, contre toutes les guerres, bien entendu, tout au moins quand elles sont, même contre toutes les guerres ne sont jamais normales, la guerre ne doit pas exister. Donc contre toutes les guerres, contre la torture en Algérie, et ensuite pour les combats pour l'interruption volontaire de grossesse, pour la contraception, et bien entendu avec Robert Badinter et puis Henri Leclerc, pour l'abolition de la peine de mort. Alors aujourd'hui, parce que je vais conclure maintenant sur la Ligue, aujourd'hui nos combats, c'est les combats que vous connaissez tous, c'est les combats pour les libertés individuelles et les libertés fondamentales, c'est-à-dire ce dont on va parler tout à l'heure sur la surveillance généralisée des citoyens. C'est les combats aussi pour la régularisation et dans la dignité d'un certain nombre de nos, compatriotes ou frères même, émigrés. C'est le problème récurrent du logement, un problème récurrent en France depuis des décennies, le problème du logement. C'est le problème de la paupérisation d'une partie de la société, puisqu'on le voit très bien aujourd'hui, la paupérisation se met en place. Je l'ai vu tout à l'heure en arrivant à quelques centaines de mètres d'ici, à l'entrée du Père Lachaise, il y avait la queue pour la soupe populaire. Donc c'est quand même quelque chose que je considère comme intolérable aussi. Voilà nos combats actuels. Bon, j'en oublie bien entendu, j'en oublie beaucoup même.
Et là, depuis quelques mois, vous avez lancé une campagne d'urgence pour les libertés et les droits.
Oui, alors c'est une campagne parce que nous sommes la nature a horreur du vide et nous aussi. Et on s'est aperçu qu'il y avait un vide quelque part, c'est-à-dire que on trouve qu'il y a plus de combattants pour les libertés, plus de combattants politiques, on va dire, pour les libertés et pour les droits. Donc il faut faire réagir l'opinion publique. Et on a cette prétention de faire réagir l'opinion publique. Et on a créé, effectivement, enfin, on a mis en place une campagne Urgence pour les libertés, Urgence pour les droits, qui se décompose entre 5 thèmes. Donc, le premier thème, moi qui m'est cher aussi, c'est, je travaille beaucoup pour le 5e thème qui est la société de surveillance. Mais le premier thème m'est cher aussi, c'est celui de la démocratie. Et c'est de savoir si réellement on peut imaginer encore actuellement que nous sommes dans un pays réellement démocratique. C'est une question et c'est une question sur laquelle on débat. Le deuxième thème, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, c'est sur l'exclusion sociale. Le troisième thème, c'est sur l'immigration, le droit des étrangers. Et le quatrième, c'est un thème très important aussi, puisque on a une forte régression, on le voit avec, je l'ai oublié tout à l'heure, mais c'est un thème récurrent depuis de nombreuses années, sinon presque des siècles, c'est sur celui de la prison et de la justice en France. Donc c'est le quatrième thème, et le cinquième, j'ai déjà fait allusion, c'est la vidéosurveillance, c'est la surveillance généralisée, le fichage, etc., le traçage des citoyens.
Sur quel laps de temps vous allez faire cette campagne ?
Alors, on a commencé le 1er novembre. Théoriquement, elle finira en apothéose, on espère, mais on en est sûr, le 6 février. Mais elle va durer sur toute l'année 2010.
Et par rapport à cette volonté de mobiliser le monde politique sur cette question-là, il y a déjà des retours, il y a déjà des avancées
Pas encore.
Le monde politique institutionnel.
Oui, enfin, c'est pas que le monde politique et institutionnel, c'est aussi le monde associatif, c'est aussi le citoyen, parce qu'on fait actuellement, sous ce thème des urgences pour les libertés, urgences pour les droits, on fait des réunions pratiquement dans toutes les sections de France et de Navarre. On a actuellement 850 sections, il devrait y avoir au minimum 850 réunions sur un de ces thèmes, et 5 grandes réunions. Il y en a une à Lyon, il y en a une à Marseille, il va y en avoir une à Grenoble bientôt, une à Toulouse, et la dernière grande réunion, ça sera à Paris le 6 février. Et à partir de là, on espère réunir un certain matériau qui va nous permettre d'interpeller les politiques, d'interpeller les associations et d'interpeller les citoyens pour essayer de leur faire prendre conscience. Nous, on ne veut pas remplacer le politique, mais on s'est aperçu qu'il y a un vide. Enfin, je pense que tout le monde le sait. Il y a vraiment un vide quelque part. On a l'impression qu'on peut dire et faire n'importe quoi sans qu'il y ait des réactions véritables dans les médias. Donc aujourd'hui, nous, on voudrait que ce vide se remplisse et que un véritable dialogue s'engage dans ce pays.
Alors, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'une société de surveillance ?
Oui. Oui. On peut parler d'une société de surveillance parce que, principalement, du fait que il s'est passé quelque chose dans les 30 dernières années. En 1974, le gouvernement de M. Giscard d'Estaing voulait mettre en place un fichier qui s'appelle Safari. Vous êtes trop jeune pour savoir ça.
Pas tous.
Pas tous, non, pas tous, mais il y en a beaucoup autour de cette table quand même.
On peut le savoir quand même.
Ouais. Donc Safari. Et ce fichier Safari, c'était un fichier qui était destiné à interconnecter l'ensemble des informations qui concernaient les citoyens français. Là, une réaction mais citoyenne immédiate s'est mise en place. C'est un tollé général, une quasi-insurrection dans les rues. Enfin, j'exagère un tout petit peu, mais pas vraiment. Les journaux de l'époque qui n'étaient pas inféodés à un certain pouvoir, celui de la finance et celui de la politique, comme aujourd'hui, ont décidé de réagir. Le Monde a titré sur ce sujet-là pendant plusieurs jours et a même fait une édition spéciale. À tel point que le gouvernement a reculé au bout de 3 semaines, 1 mois, et a décidé d'enterrer le projet en disant non, là on s'est trompé, bon, on comprend. Et a réfléchi, a mis du temps d'ailleurs à réfléchir, puisqu'il a créé dans la foulée, le 6 janvier 1978, la CNIL, Commission nationale informatique et liberté, et il a pris une loi, la loi informatique et liberté qu'on connaît tous aujourd'hui, qui a défini l'ensemble des critères qui permettent de légiférer sur les droits fondamentaux. Voilà. Et malheureusement, en aparté, là, si vous voulez, immédiatement, la loi informatique et liberté a été revue en 2004 par le gouvernement de l'époque. Elle a été revue à la baisse parce que en 1978, les lois et la CNIL devaient avoir un avis conforme, c'est-à-dire qu'une loi ne pouvait être votée que si la CNIL donnait un avis conforme. Maintenant, c'est un avis consultatif. Or, on l'a vu récemment, on l'a vu l'année dernière quand il s'agit d'Edwige, le pouvoir interprète à sa façon la loi et interprète surtout les avis consultatifs et ne tient pas compte des avis consultatifs de la CNIL.
Mais la CNIL a toujours eu, peut jouer un rôle sur des dossiers, mais sur les lois, la CNIL n'a jamais eu véritablement d'influence et de pouvoir.
La CNIL n'a jamais eu d'influence et de pouvoir. Si, si, elle avait l'obligation. Enfin, la loi avait l'obligation d'être conforme à l'avis de la CNIL. C'est-à-dire que la loi était promulguée, enfin, n'était pas promulguée, la loi était écrite, elle passait à la CNIL, elle passait au Conseil d'État, comme aujourd'hui, bien entendu, et si l'avis n'était pas conforme, si l'avis de la CNIL n'était pas conforme, la loi devait être retoquée. Bon, il s'est trouvé que, et c'est ce que dit d'ailleurs le président de la CNIL, M. Turc, aujourd'hui, il s'est trouvé que jamais, dans cette période, de 1978 à 2004, jamais les lois n'ont été différentes. L'avis conforme a toujours été rendu. Mais parce que les lois n'étaient pas des lois liberticides comme on en trouve aujourd'hui.
Non, c'est un débat qu'on a entre toutes les associations sur le rôle de la CNIL, c'est récurrent.
Oui, oui, absolument, je suis bien d'accord.
On est tous partagés là-dessus.
Oui, oui, non, mais effectivement, le rôle de la CNIL, bon, c'est un rôle. D'abord, c'est une organisation administrative qui n'est pas indépendante, bon, enfin, qui devrait être indépendante, mais qui ne l'est pas, pour une raison simple, c'est qu'elle touche son budget de la part de l'État. Les membres de la CNIL sont désignés à un tiers, je crois, par le Parlement, par le Sénat, enfin par le Parlement, par l'Assemblée, par le Sénat et par le Président de la République. Donc effectivement, on peut se rendre compte qu'il peut y avoir un certain déséquilibre quant à sa démocratie. Ça, je suis complètement d'accord. Néanmoins, de 1978 à 2004, c'était l'avis conforme. Et c'était quand même mieux que l'avis consultatif. Parce que l'avis consultatif aujourd'hui, ça veut dire que je suis désolé, je vais être un peu trivial, je m'assois dessus et je fais ce que je veux.
Alors, dans votre texte d'introduction donc à la campagne d'urgence pour les libertés et les droits, vous dites « En tant que citoyen, en tant que professionnel, chacun d'entre nous est sommé de contribuer à une société de surveillance généralisée. » Est-ce que vous pouvez développer ce point ?
Ça veut dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'époque de 1974-1978, les gens réagissaient, mais il s'est passé un certain nombre de facteurs entre-temps. Le premier, c'est le développement de l'informatique, du numérique. Ce développement du numérique, il ne faut pas oublier qu'en 1971, s'est produit un événement fondamental, c'est celui de l'invention et la mise sur le marché du microprocesseur. Et cette invention du microprocesseur, cette mise sur le marché, a complètement modifié dans des proportions exponentielles les dimensions des ordinateurs, la rapidité de calcul, les capacités de stockage, puisqu'aujourd'hui on est à peu près à, je crois, à 10 puissance 16 tétraoctets, donc téraoctets du moins, donc ça fait des chiffres qui sont, enfin qu'on peut même pas dire si vous voulez, parce qu'il y a tellement de zéros derrière, et qui dépassent l'entendement. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, est venu s'ajouter la Libye derrière ça de 2001, le 11 septembre 2001, où les tours, les Twin Towers sont tombés, et là, on est rentré dans une société véritablement différente, puisqu'on est tous terroristes potentiels. Donc, il faut effectivement surveiller l'ensemble des citoyens, puisque chacun des citoyens que nous sommes peut être un terroriste en puissance. On l'a vu récemment encore. Le troisième point, c'est qu'on est en train de confondre un petit peu, comme l'avait d'ailleurs prévu Hannah Arendt en 1950, on est en train de confondre l'intime et le public, on mélange tout. Et Hannah Arendt avait dit que lorsque la démocratie n'arriverait plus à faire la part entre le public et le privé, il n'y aurait plus de démocratie. Enfin, je transpose un peu ces termes, mais c'était ça. Et puis, ça fait qu'aujourd'hui, et puis le risque zéro, on le voit, on vient de le voir avec ce qui se passe avec la grippe H1N1, le risque zéro tout un chacun veut maintenant que la société lui procure pratiquement l'immortalité, que la société procure à ses enfants, on le voit dans les écoles maternelles à Paris, où aujourd'hui il n'est plus normal d'amener des gâteaux qui sont faits par les mamans. Il faut que ce soit des gâteaux qui soient sous vide et qui viennent de supermarché, parce qu'on est quasiment certain, ce qui est complètement faux d'ailleurs, qu'il n'y aurait pas une salmonelle ou quelque chose comme ça. Donc on n'a plus aujourd'hui le droit de faire un gâteau maison pour les anniversaires des enfants. C'est tout ça, c'est le risque zéro. Et le citoyen a envie de se mettre dans les bras du pouvoir, pour une majorité d'entre eux, pas pour nous, bien entendu, qui sommes des militants, ni vous qui êtes avec moi autour de cette table, mais pour la majorité des citoyens, de se mettre dans les bras du pouvoir, tel un petit enfant qui va vers son père et qui dit « Papa, protège-moi ». Donc voilà, si vous voulez, pourquoi on est arrivé petit à petit dans cette société de surveillance. Et aussi, par un autre fait, c'est que, et que j'allais oublier, et que fondamental, je pense que vous ne me contredirez pas, c'est celui du secteur marchand, de l'argent qui est fait, du profit qui est fait autour de tout ça. Et prenons un cas tout à fait particulier qui vous intéresse particulièrement, c'est les caméras de vidéosurveillance. Caméras de vidéosurveillance, le prix moyen d'installation actuellement est de 70 000 euros. Ce n'est pas 70 000 euros qui sont perdus pour tout le monde. Voilà. Et quand on sait que la majorité des caméras de vidéosurveillance qui sont fabriquées, elles viennent de l'étranger, qu'on peut admettre qu'elles sont fabriquées avec un facteur 1 et qu'elles sont réduites avec un facteur 10, les 9 qui restent, bon, on peut se demander où cet argent-là est dilué, comment ça se passe. C'est un petit peu comme le grand commerce, hein, comme la société, les grandes sociétés commerciales.
Et donc, pour revenir donc aux pressions qu'il peut y avoir, notamment sur les professionnels, donc c'est pas seulement une acceptation du citoyen, mais je pense qu'il y a aussi des pressions, notamment sur les médecins, donc qui doivent surveiller les assurés sociaux. On a vu qu'il y avait aussi effectivement, il y a des, par exemple, dans le domaine du social, donc il y a un certain nombre de professionnels qui doivent écrire des comptes rendus. Donc c'est pas seulement en fait le citoyen qui, par sa peur, a envie d'être protégé.
Non, c'est pas le citoyen qui, par sa peur, a envie d'être protégé. Attention, j'ai bien parlé de cinq à six paramètres importants qui avaient modifié la relation du citoyen et de l'État et qui nous avaient apporter cette société de surveillance généralisée. Effectivement, c'est une notion qui va aussi, par exemple, vous venez d'employer les personnels de santé, mais vous avez aussi cette loi qui vient d'être votée, ou qui va être votée, je ne sais pas si la circulaire est passée, sur le fait de contrôler les gens qui sont en arrêt de travail pour voir si véritablement ce ne sont pas des fraudeurs. Mais tout est fait dans le même sens, si vous voulez. Tout est fait dans... Enfin, là, on sort un peu du cadre des droits de l'homme purs, enfin, des libertés individuelles pures, pour rentrer dans un cadre qui est le cadre numéro un de notre campagne, c'est cette histoire de démocratie. Est-ce que, véritablement, on est encore dans une démocratie qui nous permette de vivre dans une liberté normale? Moi, je pense que non, pour une raison simple, c'est que le contrôle ne se fait pas qu'au niveau individuel, il se fait aussi au niveau collectif, et il se fait parce que la société se doit aujourd'hui, enfin tout au moins dans l'esprit de certains, se doit aujourd'hui d'être rentable. Et c'est-à-dire qu'un euro dépensé doit rapporter 1,20 € ou 1,50 €. Et de ce fait-là, il n'y a plus aucun travail, aucune collectivité, aucun service public qui ne peut exister. Et c'est pour ça qu'on est obligé, que le pouvoir se dit « je vais tout contrôler parce que je veux que tout soit rentable ». Enfin, c'est nos convictions, si vous voulez, c'est ce que nous pensons. On pense aujourd'hui qu'effectivement, la société dans laquelle on veut nous faire aller, qui est une société à l'anglo-saxonne, nous semble-t-il, qui est une société où tout ce qui est investi doit être profitable, profitable au sens du mot profit, hein, au sens de faire de l'argent, de faire du business.
On a quand même vu des grands moments d'émotion sur quand il y a eu ce projet sur l'ADN pour le groupement familial des immigrés ou sur le fichier Edwige et même sur la grippe. Tout le monde ne s'est pas fait vacciner.
Loin s'en faut d'ailleurs.
Donc il arrive qu'il y ait des moments de résistance qui nous échappent.
Oui, bah
nous dépassent.
Non, mais tu as raison. Le fichier Edwige est véritablement, enfin le premier fichier Edwige est véritablement quelque chose qui a dépassé ce que nous attendions nous-mêmes, parce qu'effectivement en l'espace de 2 mois on a réussi à obtenir plus de 220 000 à 250 000 signatures entre les signatures électroniques et les signatures papier. Et c'est effectivement ce qui a fait reculer le pouvoir le 9 septembre 2008. Alors, il y a des sursauts de temps en temps, mais malheureusement, ces sursauts-là, on ne les retrouve pas de façon systématique. Il y a des lois qui passent sans que personne ne réagisse. Les gens restent complètement apathiques. On a l'impression qu'ils sont anesthésiés. Bon, il se trouve qu'aujourd'hui, on est certainement face à une situation qui est en train de changer. Nous aussi, si vous voulez. Pourquoi on a fait cette campagne ? On a fait cette campagne parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, la nature a horreur du vide et nous aussi. Mais deuxièmement, parce qu'intuitivement, nous nous sommes rendus compte qu'un grand nombre de citoyens se posaient des questions quant à la validité de la société vers laquelle nous allions. Et la question qui se posait, c'est dans quelle société allons-nous demain ? Comme ils n'avaient pas la réponse, parce que c'est une réponse extrêmement complexe que nous-mêmes, nous n'avons pas, bien entendu, et que personne n'a, je ne suppose. Intuitivement, nous savions, nous pensions que c'était le moment opportun pour déclencher cette campagne et essayer de faire naître un réflexe à l'intérieur du mouvement citoyen. Bon, je pense qu'on va y réussir, mais ce qu'on veut aussi, c'est augmenter nos forces, augmenter notre militantisme par le nombre de personnes qui vont travailler avec nous.
On va faire une pause musicale.
Avec Thomas Fersen.
C'est une nuit conventionnelle. Un chien aboie, une chouette ulule. Les prisonniers dans leurs cellules rêvent de creuser un tunnel.
Mais avec une petite cuillère, il faudrait être un peu naïf. La prison n'est pas un gruyère, si au moins j'avais un canif.
Je vous fais porter une brioche fourrée avec une pioche, 10 mètres de corde environ, dans la dinde au marron. Si vous goûtez la mortadelle, n'avalez pas la pelle. Ce n'est pas tout car j'ajoute une lime dans le pâté en croûte et dans le petit pot de beurre une pince, monseigneur.
Dans la purée, pas de grumeaux,
seulement le chalumeau.
10 mètres de corde environ
dans la dinde au marron.
Un vilebrequin dans le ragoût,
ça lui donnera du goût.
Et le poil dans la choucroute, moi franchement ça me dégoûte.
Filez avant que le jour se lève, si vous trouvez la fève. C'est une nuit conventionnelle, un chien aboie, une chouette ulule, les prisonniers dans leur cellule rêvent de creuser un tunnel.
Je cherche sans y parvenir une position pour dormir.
Aboie le chien, ulule la chouette,
je m'allume une cigarette. Imagine un cigare qui fume, une pâtisserie qui vole des tours, une danseuse avec une plume dans la pièce montée des grands jours.
Pourvu d'un pistolet en sucre, doté de pièces en chocolat, bonne à manger, pas pour le lucre.
Je les cacherai pas sous mon matelas.
Je vous fais porter une brioche fourrée avec une pioche, 10 mètres de corde environ dans la dinde au marron. Si vous goûtez la mortadelle, n'avalez pas la pelle. Ce n'est pas tout car j'ajoute une lime dans le pâté en croûte et dans le petit pot de beurre une pince, monseigneur.
Dans la purée, pas de grumeaux,
seulement le chalumeau.
10 mètres de corde environ
dans la dinde au marron.
Un vilebrequin dans le ragoût,
ça lui donnera du goût.
Mais le poil dans la choucroute, moi franchement ça me dégoûte.
Filez avant que le jour se lève, si vous trouvez la fève. Si vous trouvez la fève.
Vous êtes toujours avec les Amis d'Orwell et nous sommes donc avec Jean-Claude Vitran, responsable du groupe Liberté et Technologie de l'Information à la Ligue des Droits de l'Homme. Est-ce que vous pouvez nous parler plus précisément donc de ces technologies de surveillance qui se développent de manière assez exponentielle ces dernières années ?
Ben nous, à la Ligue, on a serré un peu les problèmes. On considère qu'il y a quatre types de moyens de surveillance. D'abord, la surveillance pure, comme on vient de le dire. Et l'archétype, c'est la vidéosurveillance. Je reviendrai dessus. Le second moyen, c'est le fichage tous les fichiers. Alors, fichiers de police, fichiers administratifs, fichiers marchands. Le troisième point, c'est le traçage RFID, Radio Frequency Identification, le pass Navigo, pour être beaucoup plus simple. Et la conséquence de ces trois choses-là, de ces trois éléments-là, c'est le profilage. Profilage qui est la conséquence et l'intérêt aussi bien pour le pouvoir que pour le secteur marchand. Alors, la surveillance, c'est la vidéo, la caméra vidéo. Tout le monde sait très bien que la caméra vidéo n'a pas d'efficacité, ou peu. Elle a tellement pas d'efficacité qu'on est obligé de l'appeler vidéoprotection, par contre. On l'appelle, ou alors vidéotranquillité. Il y a une municipalité de gauche dans le Val d'Oise, je ne la nommerai pas, qui met en place 40 caméras de vidéo, qui a appelé ça vidéotranquillité. Ça doit être pour les vacances. Elles vont marcher certainement que quand les gens sont en vacances. Donc, et à Paris, vidéoprotection. Donc, c'est fallacieux, si vous voulez, c'est mensonger, parce que ça n'a jamais protégé personne. Ça n'a jamais permis, quasiment, ou là, c'est parce que les gens étaient un peu idiots, quasiment d'arrêter quelqu'un. Et ça n'a jamais non plus empêché, surtout, le délit, le crime de se faire. Si quelqu'un a envie, même sous une caméra de vidéo, d'agresser une autre personne, une petite grand-mère, pour lui voler sa retraite, il le fera avec la plus grande impunité, puisque dans seulement 5% des cas, et tous les rapports internationaux vont tous dans la même direction, entre 3 et 5% des cas sont élucidés. On pourra revenir sur ce point-là, d'ailleurs, parce qu'un jour, on nous dira, je crois, et c'est là le plus dangereux, je pense que c'est pas dévoiler quelque chose que de dire que l'idée sous-jacente à tout ça, elle est beaucoup plus loin. À mon avis, l'année prochaine, ou dans 3 ans, à Paris, on en a mis 1260, on dira, bah oui, ça marche pas, c'est parce qu'il n'y en a pas assez. Donc on en remettra 2000 ou 2500. Et puis à la fin, qu'est-ce qu'on nous dira ? On nous dira, bah écoutez, il faut maintenant qu'on arrive à vous reconnaître, donc on va faire une carte d'identité biométrique dans laquelle on va numériser votre faciès, et comme ça, avec un grand fichier national, par rapport aux images vidéo qui ont été tournées et par rapport aux cartes d'identité biométriques, on pourra vous reconnaître beaucoup plus facilement. Et ainsi de suite, on est dans cette exponentielle de développement, alors de développement un peu fascisant par rapport au pouvoir, et puis de développement financier extraordinaire, de profit extraordinaire en ce qui concerne la vidéosurveillance et la surveillance. Il y a un point quand même qui est important, c'est la façon dont les images sont traitées et c'est la façon dont le réseau fonctionne. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais il y a des cas qui sont plus importants financièrement que d'autres. Donc, Jean-Pierre, tu veux dire quelque chose ?
Non, je voulais dire que par rapport à la vidéosurveillance, les lois anti-cagoule ou lois burqa sont des lois qui vont rendre obligatoire d'être visible.
Absolument.
Donc ça fait partie du cycle de la vidéosurveillance. Hein.
Oui, c'était tout à fait.
Cette petite.
Ces lois-là.
Il y a peu de réactions sur.
Non, parce que les gens n'ont pas intégré que c'était liberticide, que c'était pas du tout sécurisant, que c'était un sentiment de sécurité, simplement, que c'était pas la sécurité, et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, quand on demande aux individus s'ils veulent des caméras de vidéosurveillance, pour certains d'entre eux et pour un grand nombre d'entre eux, oui, devant chez moi, de façon à ce qu'on n'attende pas à ma vie et à celle de mes enfants, et puis à mon bien aussi, parce que ça va surveiller ma maison, mes alentours, etc.
Et une remarque par rapport à ce que tu viens de dire aussi sur le plan 1000 caméras de Paris. La demande de doubler le nombre de caméras déjà prévues a été faite pour l'instant par l'opposition municipale. Mais à cette demande-là, le préfet de police avait déjà répondu que oui, il allait y réfléchir, puisque c'est le préfet de police qui met en place le plan 1000 caméras à Paris. Et qu'il allait y réfléchir, peut-être pas sous la forme d'un doublement de caméras, mais sous la forme de nouvelles technologies. Ça peut être des logiciels de reconnaissance.
Ah oui, alors c'est les fameux logiciels comportementalistes, comme on est en train d'en étudier ou d'en mettre en place en Angleterre. Parce que les Anglais sont très forts. Les Anglais savent très bien que ça ne marche pas, puisque c'est eux qui ont fait le plus beau rapport sur la non-efficacité de leur système, mais ils sont en train de mettre en place dans des petites villes comme Millsborough ou des choses comme ça, des logiciels comportementalistes. Et en plus de ça, ils mettent en garde, pas contre, mais ils mettent en garde, comme un chien de garde, leurs caméras de vidéosurveillance par les citoyens. C'est-à-dire que chaque citoyen peut regarder les images de 3 ou 4 caméras vidéo, d'appeler le commissaire, enfin je ne sais pas comment ça s'appelle chez les Anglais, le shérif chez les Américains, en lui disant « Attention, il y a quelqu'un qui est... » Non, bon, on est dans la délation, enfin on est dans les systèmes, on est dans un système où on marche sur la tête, là, si vous voulez, avec cette vidéosurveillance. Bon, je pense que ce n'est pas perdu pour tout le monde. À mon avis, les sources de profit sont bien connues, les sociétés sont bien connues, les grandes sociétés qui travaillent là-dessus. Il y a eu un salon de la vidéosurveillance à Arras l'année dernière. C'était au mois de mai, je crois. Moi, j'ai fait une conférence de presse contre, le même jour chez eux, là-bas. Ils étaient contents, d'ailleurs. Et il y avait 70 sociétés qui étaient représentées. C'était pas un salon, enfin c'était pas des assises de la vidéosurveillance, c'était un salon industriel. D'ailleurs, c'était tellement un salon industriel que pour y rentrer, il fallait payer 150 euros quand même. Bon, donc on était véritablement entre gens de bonne compagnie. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça, c'était la surveillance. Après, le fichage. Alors, le fichage, bon, fichage, vous avez, en 2006, vous aviez 36 fichiers de police. Aujourd'hui, il semblerait, parce qu'on en a créé très rapidement, Alain Boer vous dirait qu'il y en a 80. Donc, vous voyez, quand même, en 3 ans, on a plus que doublé. Vous avez aux alentours de 300 à 350 fichiers administratifs, fichiers de banque, fichiers de la sécurité sociale, fichier banques, je l'ai dit, des voitures volées, enfin, etc., etc. Je vais pas tous les énumérer, ça serait pas très intéressant. Et vous avez, alors, là, 2 500 000 à 3 millions fichiers marchands. Alors, quand on parlait de la CNIL tout à l'heure et du travail de la CNIL a ces 2 500 000 à 3 millions de fichiers marchands à contrôler aussi. Donc, il est extrêmement compliqué pour la CNIL qui a peu de moyens, même si elle est effectivement, on n'est pas tous complètement d'accord quant à son fonctionnement, que l'on voudrait voir amélioré, dont on voudrait voir une indépendance beaucoup plus grande, mais elle a tout ça à faire et elle n'a pas suffisamment de moyens. Nous, on essaye de se battre pour lui donner plus de moyens financiers, plus de moyens humains, un peu comme ce qui se passe en Angleterre ou en Allemagne. Parce qu'il ne faut pas oublier quelque chose, c'est qu'en 1978, la France a créé la CNIL. Et ces CNIL, donc elles ont fait des enfants, elles s'appellent autrement bien entendu, mais il y en a dans tous les pays occidentaux et il y en a dans tous les pays européens. Il y a le groupe des 29 actuellement qui regroupe l'ensemble des CNIL européennes. Ça c'est alors le fichage. Pour revenir sur le fichage, il y a 2-3 grands fichiers qui sont complètement caricaturaux de ce qu'il ne faut pas faire. Le STIC, ça a été dénoncé d'ailleurs par la CNIL, en fin 2008, où on savait que 35 millions de personnes sont sur ce fichier. Ça veut dire que plus de la moitié des Français, on est 65 millions, ça vient d'être dit, plus de la moitié des Français sont fichés. Pourquoi ? Bah, tout simplement parce qu'il y a les personnes qui ont commis des délits, ou des vols, enfin, etc., des délits. Il y a les témoins, il y a les victimes. Et tout ça, c'est dans un vaste fichier qui s'appelle le STIC, fichier de système de traitement des infractions constatées. La CNIL a dit que les gens qui avaient posé la question par rapport à leur position à l'intérieur du CNIL, à l'intérieur du STIC, pardon, on a constaté qu'il y avait plus de 50% d'erreurs. Donc, c'est inutile d'insister là-dessus. En plus de ça, c'est intéressant d'ailleurs, le STIC a été mis en place dans la plus grande clandestinité, certainement dans les années 91. Et on en a appris l'existence dans les années 98 et véritablement, il a été officialisé en 2004. Vous voyez, donc là, il y a quand même quelque chose. Il y a des fichiers qui sont des fichiers de police qui concernent les citoyens et qui ne sont pas connus des citoyens. Moi, je trouve que là, on est quand même dans un système démocratique qui est un petit peu déficient parce que le citoyen doit être au courant exactement de ce qui se passe dans son pays et de ce qui l'attend. Vous savez aussi bien que moi que si vous demandez à la CNIL de donner votre fiche des renseignements généraux, les renseignements généraux peuvent très bien dire ce qu'il y a sur votre fiche ne vous regarde pas. Moi, je trouve ça extraordinaire.
En général, ils donnent une ou deux données voilà. Et puis c'est tout.
Quoi. Moi, je trouve ça extraordinaire.
Et ils gardent le restant.
Je trouve ça extraordinaire, c'est qu'on puisse dire à un citoyen, écoutez, on a des renseignements sur vous, mais surtout, on va pas vous les dire. Non, écoutez, là, pour moi, ça fait partie de l'intolérable. Mais enfin, bon. Le deuxième fichier dont je voulais parler, c'est le FNAG, le fichier national des empreintes génétiques. Donc, ce fichier-là qui a été créé en 97 pour, au départ, prendre les données, les collecter du moins les données génétiques de criminels sexuels et des délinquants sexuels, il y avait 1500 noms. Aujourd'hui, il y a 1 500 000 noms. Donc, 1 500 000 noms, pourquoi il n'y a quand même pas 1 500 000 délinquants sexuels en France ? Au moins, ça se saurait. Mais c'est tout simplement parce que d'arrêter en décret, en circulaire, eh bien, de délinquants sexuels, on est arrivé à tous les délits. Sauf les délits financiers et les délits politiques. Bon, ça, c'est un peu normal. on va pas quand même se surveiller soi-même, mais on a tous les délits, tous les, comme, tout ce qui fait atteinte au bien d'autrui peut donner collecte à ces empreintes génétiques, enfin, ces caractéristiques génétiques. Donc là, on est quand même dans quelque chose qui n'est pas normal non plus, puisque on n'est pas dans un système démocratique normal, puisque ça n'a pas été la loi qui a défini ça. Et puis, en ce qui concerne le fichage va beaucoup plus loin aussi, parce que ce sont les problèmes d'interconnexion qui sont gênants, et les problèmes d'interconnexion européens. Vous savez que maintenant, on va faire des systèmes internationaux de fichage qui vont être interconnectés entre eux, alors que l'interconnexion, théoriquement, est interdite. Enfin, ça, c'est le deuxième point. Le troisième, le traçage. Donc le traçage, j'en ai parlé tout à l'heure. Le traçage, l'archétype aujourd'hui, pour être clair, c'est le passe-navigo. Le passe-navigo, vous avez une carte comme une carte bleue. Dessus, vous avez ce qu'on appelle une RFID, une étiquette d'identification par radiofréquence. Et cette étiquette n'a plus besoin de passer devant un lecteur. Et il suffit qu'elle passe dans l'environnement d'un lecteur pour être lu. Mais sur le pass Navigo, on peut y lire votre nom, enfin votre identité. On peut y lire et y inscrire dans un ordinateur le moment où vous êtes rentré, à quelle station, etc. Et on conserve ces informations-là pendant 48 heures. Quand il s'agit de mettre ça sur le marché à la place de la carte orange, il avait été question, et la CNIL l'avait demandé, qu'il y ait un pass Navigo anonyme. Il a été extrêmement difficile au départ de pouvoir se le procurer, et c'est toujours difficile de pouvoir se le procurer. Et pour avoir un pass Navigo anonyme, il faut payer 5 euros. C'est quand même le monde à l'envers. On paye pour l'anonymisation, mais on ne paye pas si on veut être connu de service de la RATP. Enfin, c'est ce qui se dit. Et ça, c'est complètement anormal. Là, on est véritablement tracé. On sait à quelle heure vous rentrez, tous les jours, dans quelle station, qu'est-ce que vous y faites, où vous ressortez, par exemple, si vous êtes obligé de représenter votre passe Navigo à la sortie. Qu'est-ce qui va se passer avec ces RFID ? Eh bien, ces RFID, elles vont être la carte d'identité de l'ensemble des produits, en quelques temps, à 24 à 36 mois. C'est-à-dire que chaque produit qui va être vendu dans le grand commerce, comme le petit d'ailleurs, mais qui va être vendu, va être possesseur d'une de ces puces RFID. Et ça sera sa carte d'identité, mais la carte d'identité individuelle, c'est-à-dire qu'il y aura une RFID sur chacune des bouteilles d'un pack de 6 bouteilles, par exemple. Et on pourra donc pister à n'importe quel moment le produit, mais on pourra pister le propriétaire du produit. Puisqu'il suffirait, par exemple, alors là, ouais, j'entends des gens qui me disent « mais il est paranoïaque, ce gars de la LDH, là ». Non, je ne suis pas paranoïaque. C'est ce qui peut se faire, parce qu'on sait très bien que tout ce qui peut se faire, l'homme risque de le faire. Donc, on met à la sortie de chaque station de métro un lecteur de RFID. Vous savez, un lecteur, c'est invisible. Et au moment où la puce est lue, on ne le sait pas. Actuellement, quand vous passez vos produits avec le code-barre devant un scanner, vous le voyez ce qui se passe. Là, vous ne le verrez pas. Et en plus de ça, il y a des RFID qui sont passives et des RFID qui sont actives. C'est-à-dire qu'on peut prendre les informations qui sont dessus, mais on peut aussi prendre et mettre des informations. Donc, vous imaginez le monde dans lequel on peut aller. Et alors, cerise sur le gâteau, mais ça, c'est extraordinaire pour les grandes surfaces et pour le grand commerce. C'est que la RFID, une fois qu'elle sera sur le produit, on n'aura plus besoin de faire de l'inventaire. Il suffira de passer dans chaque allée avec un lecteur et sans enlever les produits des rayons, l'inventaire se fera tout seul. Quand vous passerez à la caisse avec votre caddie, vous n'enlèverez pas les objets de votre caddie. Vous passerez à la caisse, vous passerez dans le lecteur ou sous le lecteur, dans un portique, et puis il n'y aura plus de caissière. Donc là, quid des 160 000 à 170 000 caissières qu'on connaît aujourd'hui ? Et puis, on va, à 2-3 mètres plus loin, la facture sortira d'une machine, vous irez au lecteur de carte bleue, puisque maintenant on paye tout comme ça, hein, c'est tellement facile, tellement commode, vous irez au lecteur de carte bleue, et là, plus besoin de carte malin, plus besoin de vous payer, vous faire prendre une carte au champ ou n'importe quoi, simplement pour et vous donner un petit cadeau qui vaut pas grand chose pour avoir vos informations, votre profil. Là, on pourra vous profiler comme vous voulez. À chaque fois que vous irez dans votre magasin préféré, on saura qu'est-ce que vous consommez et au bout d'un certain temps, on aura réussi à profiler l'ensemble de vos achats. Et dernier point, Monsieur Turc a dit, et c'est pas moi qui le dis, c'est la CNIL. Vous pouvez le retrouver sur son site. Il dit que c'est le système le plus liberticide qui n'a jamais existé. C'est texto ce que dit Monsieur Turc. Et il demande à ce que les puces soient désactivées à la sortie des magasins. Ben non, on ne va pas désactiver les puces à la sortie des magasins. On a créé un réfrigérateur qui est lecteur de puces et qui va permettre de détecter les produits qui sont en dépassement de date, par exemple les yaourts, et le réfrigérateur va vous dire si vous ne les mangez pas d'ici demain, eh bien, ils vont être tournés. Et on est en train de créer une machine à laver qui va lire les étiquettes RFID qui sont sur les textiles et vous dire ça c'est du 40 degrés, c'est pas du 60 degrés. Donc vous voyez, on est véritablement dans un système mercantile, un système d'immenses profits qui ne veut pas dire son nom.
Sur les puces, sur les nanotechnologies, il y a toute une campagne commission du débat public là, sur 12 villes en France, dont une partie des séances ont été troublées, voire interrompues. Bon, je m'étonne de cette... Et il y a un grand silence sur cette contre-campagne sur les nanotechnologies. Quoi. Ça a l'air d'être vraiment un marché terrible. Quoi.
Alors, il y a deux, il faut faire attention. Quand on parle de nanotechnologie, il y a deux marchés qui sont... Il y a les nanoparticules et les nanotechnologies. Les nanoparticules sont très au point, elles existent depuis longtemps. On en mange tous les jours. Par exemple, il y en a dans le chocolat en poudre. Quand j'étais enfant, le chocolat en poudre, quand on le mettait dans notre bol, il y avait des grumeaux. Maintenant, on met des particules. Alors, je crois que ce sont des particules, des nanoparticules de sélénium qui sont des dispersants. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de grumeaux. Vous avez un chocolat au chocolat qui est... Vous pouvez, oui, le prendre à la paille, etc. Il n'y a pas de problème. Il n'y a plus de problème. On met ça dans les peintures, on met ça dans... Alors, et puis, vous avez dans les écrans plats, vous avez les nanotubes de carbone qui... C'est un petit peu le même débat que le GIEC avec le climat, si vous voulez, sur les nanoparticules et les nanotechnologies. Il y a des savants, et pas des moindres, qui disent que les nanotubes de carbone qui sont dans les écrans plats, dans les écrans de télévision et qui vont bientôt être dans les carrosseries de voitures parce que c'est beaucoup plus résistant que l'acier pur, passent la barrière encéphalique et sont encore plus dangereuses que l'amiante dans les années 1900-1920. Donc là, voilà où on en est. Et ce débat dont vous parlez, c'est effectivement, il y avait 20 villes qui avaient été prévues. Il est arrêté là. Actuellement, il est arrêté, ce débat, parce qu'il n'a jamais pu avoir lieu dans des conditions normales. Parce que c'est un débat tronqué, parce que c'est un débat qui... C'est pas un vrai débat. On y invite... C'est un petit peu comme le débat qui a eu lieu pour la vidéosurveillance dans certains arrondissements de Paris, pour revenir sur des choses qui fâchent un peu. C'était des débats tronqués. C'était des débats où il n'y avait que des débatteurs qui étaient tous du même côté, si vous voulez.
C'était dans tous les arrondissements comme ça. C'est-à-dire que le bien fondé de la vidéosurveillance n'était pas du tout mis en question. Les débats n'étaient ouverts que sur les implantations de caméras. On n'avait pas le droit de parler d'autre chose. Alors on pouvait parler d'autre chose, mais de toute façon, ça ne servait à rien.
Ah oui, c'est exactement ça. Et là, dans les débats sur les nanotechnologies qui se sont passés dans les villes de France, celui qui s'est passé le mieux, c'est celui qui a eu lieu à Strasbourg. Et nous, on a fait un contre-débat à Strasbourg 3 jours plus tard. Mais c'est celui qui s'est passé le mieux parce que c'était le premier. Mais tous les autres, ceux qui ont eu lieu à Grenoble, alors à Grenoble, n'en parlons pas, puisque à Grenoble, c'est la patrie des nanotechnologies avec le Minatech. Là, et puis vous avez une association qui s'appelle Pièces et Main-d'œuvre, enfin pas une association, un collectif qui s'appelle Pièces et Main-d'œuvre, qui se défend bec et ongle contre les nanotechnologies et les nanoparticules. Donc c'est un débat qui aujourd'hui est tronqué, c'est un débat qu'on ne veut pas laisser au public, pour une raison certainement très simple, c'est qu'il y a un marché inimaginable derrière tout ça.
Mais le silence médiatique est quand même impressionnant là, sur cette question. Parce que quand même été, cette campagne a été interrompue. Quand même.
Oui, mais le silence médiatique, est-ce que nous, à part le silence, à part ce qu'on est en train de dire ce soir sur cette radio et qui a l'avantage d'exister, est-ce que les médias reprennent tout ça? Certainement pas. Bon, à part quelques articles de journaux, mais la grande presse télévisuelle, la grande reprend absolument pas le débat sur les nanotechnologies. Est-ce qu'on en a entendu parler? Non.
Je crois qu'il faut redire en deux mots en quoi c'est liberticide les nanotechnologies.
Alors, les nanotechnologies en elles-mêmes ne sont pas liberticides. C'est l'utilisation qu'on risque d'en faire. Par exemple, des RFID de taille nanotechnologique, ce sont des RFID qui seront invisibles, indétectables. Donc là, on est dans un réel danger. Si on a sur nous des choses qui nous permettent de nous tracer à notre insu parce que c'est invisible et indétectable, là, ça devient extrêmement dangereux. On n'est même plus dans la démocratie. On a dépassé le stade de la démocratie. Quand vous imaginez que dans ma main, dans le creux de ma main, vous allez pouvoir avoir 1500 à 2000 petites nanoparticules ou nanotechnologies ou RFID qui seront capables de voler partout et de... Là, on est dans un système... Alors, ne soyons pas paranoïaques. Les nanotechnologies, les nanoparticules, ça peut avoir... un intérêt, par exemple, quand il s'agit de la médecine, où on est capable d'envoyer une nanoparticule dans une cellule elle-même. Mais c'est ce qu'on va en faire. D'ailleurs, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, dans cette démocratie où nous sommes, c'est qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on donne au public le droit de faire et le droit de...
Oui, juste une remarque là-dessus, parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous quand vous dites qu'il y a une bonne et une mauvaise utilisation des technologies. Je pense qu'il y a il y a des avantages et des inconvénients et on n'a pas le choix, on doit prendre les deux avec. Donc s'il s'agit d'utiliser des nanotechnologies pour des améliorations de médecine, on aura forcément les inconvénients et les aspects liberticides qui vont avec. Et ceci pour toutes les technologies. C'est aussi pour ça que c'est, à mon avis, assez difficile de lutter contre l'envahissement de toutes ces technologies, parce qu'elles ont des aspects attrayants ou des aspects positifs dans le cas sanitaire. Mais on est obligé de se coltiner aussi tous les aspects négatifs qui vont avec.
Ben là, c'est dommage qu'il ne reste plus beaucoup de temps, parce que moi, je ne suis pas complètement d'accord avec vous. Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il faut se coltiner... les points négatifs. Je pense qu'il faut avoir l'utopie dans l'esprit de se dire qu'il faut prendre ce qui est bon et laisser ce qui est mauvais.
Mais vous disiez vous-même tout à l'heure que quand il y a le pire, l'homme le fait de toute façon.
C'est ça. Voilà, le vrai problème, il est celui-là. Mais moi, j'ai l'utopie de me dire gardons ce qui est bon et refusons ce qui est mauvais. Parce que de toute façon, si on garde ce qui est bon et ce qui est mauvais, on n'arrivera pas. On arrivera à la barbarie, je pense.
Alors tu parlais tout à l'heure de renforcer la LDH, mais on est un certain nombre d'associations, de collectifs. Qu'est-ce qui empêche qu'on n'arrive pas à faire un mouvement pour les libertés? Tu parlais hors micro de réseau, mais comment peut-on faire monter la mayonnaise tous ensemble?
Eh bien, il faut qu'on se réunisse, il faut qu'on en parle, il faut qu'on mette ça sur le tapis, il faut que à chacune de nos hiérarchies, enfin j'aime pas ce terme-là, mais il y en a quand même une.
Il y en a pas, souris, vous êtes filmé.
De nos hiérarchies, on en débatte et qu'effectivement, mais l'avantage, c'est que nous, on ouvre le débat à tout le monde et que chacune des associations peuvent venir se mêler à notre débat et on demande que ça d'ailleurs. Alors. Souriez, vous êtes filmé, venez vous mêler de notre débat et puis travaillons ensemble.
On travaille déjà ensemble sur la vidéosurveillance.
Absolument, absolument.
Bah, merci Jean-Claude Vitran. Donc, je rappelle que vous êtes responsable du groupe Liberté et Technologie de l'Information à la Ligue des Droits de l'Homme.
On va se quitter avec Henri Duparc sur un soupir.
Un dernier mot pour vous dire que le 6 février, donc à Paris, à l'espace Reuilly, dans le 12e, vous avez rendez-vous avec la Ligue des droits de l'homme. de 15h à 23h sur la question des libertés et des droits.